Il est 1h du matin à Paris, 23h temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Pierre Boudiès, bonsoir Pierre.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à toutes et à tous. Une première tête tombe au sein de l'administration américaine, celle du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, débarqué par Donald Trump ce jeudi. Il paye ses bourdes concernant le secret défense et une loyauté pas assez affirmée. Jérusalem finalement épargnée par les flammes. Après plusieurs jours de lutte, les pompiers israéliens sont parvenus à maîtriser les incendies monstres qui ont embrasé la région. Reportage sur place dans un instant. Le Cachemire se prépare au pire en pleine montée des tensions entre New Delhi et Islamabad. La région contestée craint d'être le théâtre d'un conflit ouvert. Côté pakistanais, plus de 1000 écoles coraniques ont déjà été fermées. Et puis l'écart se creuse entre grands patrons et salariés. Les salaires des PDG ont augmenté de 50% depuis 2019. Ceux des salariés ont, eux, continué à stagner malgré l'inflation.
RFI.
Du mouvement au sommet de l'administration américaine, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz quitte ses fonctions pour devenir ambassadeur auprès des Nations Unies, un poste moins proche de la présidence. Mike Waltz était fragilisé depuis plusieurs semaines. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Mike Waltz paye ce que l'on appelle le signal gate. C'est lui qui avait ajouté un journaliste à un groupe de discussion sur des frappes américaines contre les Houthis au Yémen, un groupe comprenant le ministre de la Défense Pete Hegseth et dont les démocrates réclament aussi le départ. Un groupe créé sur la messagerie Signal, une messagerie cryptée mais privée et qui ne fait pas partie des outils approuvés pour discuter des questions relatives à la défense. Donald Trump avait été mécontent, mais il avait indiqué vouloir voir comment l'affaire allait se dérouler et elle s'est mal déroulée pour Mike Waltz. On a appris ensuite qu'il échangeait sur des questions relatives à son travail via un service de courrier électronique privé et que son équipe avait créé d'autres groupes du même genre sur Signal. Plusieurs membres du Conseil de sécurité nationale ont aussi été congédiés après la visite à la Maison Blanche de l'influenceuse d'extrême droite Laura Loomer. Mike Waltz est un héritier des néoconservateurs républicains, pas un Trumpiste historique. Or, Donald Trump apprécie un haut degré de loyauté. Il n'a pas encore annoncé qui va remplacer Mike Waltz. Le poste de conseiller à la sécurité nationale a connu 4 titulaires lors du premier mandat de Donald Trump. On semble donc reparti sur les bases d'une vitesse de renouvellement élevée. Dans l'intervalle, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui va cumuler les deux fonctions. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et sur son réseau Truth Social, le président américain a salué le travail de Mike Waltz en faveur des intérêts des États-Unis. Au moins 29 morts à Gaza dans de nouvelles frappes israéliennes. Bilan présenté par la défense civile palestinienne qui fait état de bombardements à Ran Younes mais également à Gazaville. Alors que l'armée israélienne bloque toujours l'entrée d'aide humanitaire dans l'enclave, l'Organisation mondiale de la santé estime que ce qui se déroule sur place est une abomination. Son directeur adjoint Mike Ryan accuse la communauté internationale d'affamer les enfants en refusant d'imposer plus de pression à Israël. Israël, où les feux de forêt ont finalement été maîtrisés. Aujourd'hui, le pays avait décrété un état d'alerte maximale et mobilisé l'armée. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a même sollicité une aide internationale. L'Italie et la Croatie ont notamment envoyé des canadairs, des avions pour lutter contre les flammes. Les incendies ont principalement touché les collines de Jérusalem, une région à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville sainte où s'est rendu Sami Boukhelifa.
Lorsque le feu s'est propagé, Yossi était en première loge. Ce franco-israélien vit dans cette région boisée à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem.
Et c'était vraiment impressionnant. Impressionnant parce que le feu était partout. Il était dans plusieurs endroits en même temps. Je me demandais comment les pompiers allaient faire pour éteindre le feu parce que c'était incroyable. C'était effrayant. J'ai même filmé l'essai, les feux, etc.
Des vidéos partagées en ligne hier, mercredi, montrent des flammes parfois hautes de plusieurs mètres. Des scènes de chaos, des automobilistes bloqués sur la route et plusieurs localités évacuées. Shlomi Bozaglo, pompier, est sur le pont depuis 24 heures.
Now we are controlling the fire.
Le feu a été maîtrisé. On a 12 petits avions et hélicoptères pour surveiller les incendies. Et des canadairs sont arrivés d'Italie. La Grèce pourrait aussi nous envoyer de l'aide. Mais en attendant, on a autorisé les gens évacués à rentrer chez eux.
Car le vent est retombé et avec lui le risque de propagation des flammes.
On a eu une mauvaise météo hier, ça a joué contre nous. Le vent a soufflé à quasiment 100 km/h et on est au Moyen-Orient, il fait chaud. En plus, durant cette période de l'année, en avril-mai, les vents sont très imprévisibles. Ils peuvent changer de direction à tout instant.
Ces incendies ont fait des dégâts matériels, pas de victimes. Des pompiers ont été blessés lors de l'intervention. Sami Bourkifa de retour à Jérusalem, RFI.
Et selon le Time of Israel, Benjamin Netanyahou a déclaré hier que les autorités avaient arrêté 18 personnes soupçonnées d'incendie criminel, dont l'une aurait été prise sur le fait. Le gouvernement israélien qui menace de répondre avec force si le pouvoir syrien ne protège pas la communauté druze, menace brandie alors que le bilan des affrontements entre milices proches du régime et minorités ismaélites ont fait au moins 100 morts depuis le début de la semaine. L'un des principaux dirigeants de cette communauté accuse le gouvernement d'Ahmad al-Sharet de mener une campagne génocidaire. Il appelle à une intervention internationale. Les Nations Unies appellent de leur côté toutes les parties à la plus grande retenue. RFI, il est 4h05 à Islamabad, 9 jours après l'attentat au Cachemire indien qui a coûté la vie à 26 personnes, dont 19 civils. La tension ne cesse de monter entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires. On le rappelle, l'attaque imputée par New Delhi à Islamabad a entraîné des sanctions diplomatiques, l'annulation de visas, la fermeture de l'espace aérien de l'Inde aux avions pakistanais et des escarmouche pour la 7e nuit consécutive sur la ligne de contrôle, la frontière de facto au Cachemire. Et alors qu'Islamabad anticipe sous peu des frappes indiennes qui provoqueraient l'escalade, les Cachemiris se préparent eux au pire. Les précisions de Yelena Tomic.
Deux jours après que le premier ministre indien Narendra Modi ait donné carte blanche à ses forces pour frapper le Pakistan, le Cachemire pakistanais anticipe la riposte. Les autorités locales ont annoncé la fermeture de plus de 1000 écoles coraniques pendant 10 jours. Aux abords de la ligne de contrôle où des tirs transfrontaliers résonnent depuis maintenant une semaine, la population a commencé à stocker des vivres et à nettoyer les abris de fortune et les bunkers construits lors des conflits précédents. Des exercices d'évacuation et de premiers secours sont organisés dans les écoles pour se tenir prêts à intervenir en cas d'urgence. Malgré les appels à la retenue, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exhorté les deux parties à désamorcer la crise et à éviter l'escalade. Les tensions persiste. Le ministère indien de la Défense a accusé l'armée pakistanaise d'avoir violé pour la 7e fois consécutive le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle.
Yelena Tomic, le chef de l'armée pakistanaise a lui assisté hier à des exercices militaires dans le Punjab, autre région frontalière de l'Inde. Le général Asim Munir qui prévient, je cite, que tout aventurisme indien rencontrera une réponse déterminée. La Corée du Sud s'enfonce un peu plus dans la crise politique après la destitution de l'ancien président Yoon Suk-yeol. Son rival et chef de l'opposition Lee Jae-myung a été rattrapé par la justice. La Cour suprême annule sa relaxe dans une affaire de violation de la loi électorale et ordonne une nouvelle audience. Il risque jusqu'à 5 ans d'inéligibilité. Dans le même temps, le président par intérim Han Duk-soo a annoncé sa démission en raison, selon lui, du contexte économique. Démission également du ministre des Finances Choi Sang-mok qui était pressenti pour le remplacer. Des cortèges partout dans le monde ce mercredi à l'occasion, bien sûr, du 1er mai, une fête du travail pour défendre le droit des salariés, mais également pour dénoncer les inégalités au sein des entreprises. Depuis 2019, la rémunération des PDG a augmenté de 50%, alors que celle des employés a quasiment stagné. C'est en tout cas ce que révèle une analyse d'Oxfam portant sur 1984 entreprises dans 35 pays. Les patrons voient ainsi leur rémunération grimper, alors que les salariés peinent à suivre la hausse du coût de la vie. Léa Guérin est chargée de plaidoyer chez Oxfam France. Elle est interrogée par Agnieszka Kumor.
Année après année, on assiste au même spectacle. La rémunération des PDG explose alors que le salaire des employés stagne. Concrètement, en 2019, le salaire médian des PDG de notre échantillon était de 2,9 millions de dollars, qui est déjà conséquent, et puis il est de 4,3 millions en 2024. Plus on engrange et plus on laisse faire ce système qui laisse la richesse s'accumuler dans les mains de quelques-uns, plus on va créer des inégalités. Pour pallier à ce système, on propose tout simplement d'appliquer des règles en garantissant par exemple un salaire décent, mais on appelle également à avoir un écart maximum de rémunération de 1 à 20 entre le salaire du PDG et celui du salaire médian dans leur entreprise. En France, en 2022, par exemple, les PDG du CAC 40 avaient gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés. Et c'était un chiffre qui était déjà en progression depuis 2019.
Léa Guérin, chargée de plaidoyer chez Oxfam France. Et en France, plus de 150 000 personnes ont défilé à l'appel des syndicats aujourd'hui. À Paris, la manifestation a été marquée par des violences à l'encontre du cortège du Parti Socialiste. Le député Jérôme Guedj a notamment été pris à partie. Violence dénoncée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et puis vers une finale 100% anglaise en Ligue Europa de football. Les demi-finales allées qui se jouaient ce soir ont souri au club de Première Ligue. Manchester United écrase l'Athletic Bilbao à l'extérieur 3-0. Victoire de Tottenham sur sa pelouse 3-1 face aux Norvégiens de Bodø/Glimt. Presque 23h10 en temps universel sur RFI. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.